Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment.
Alors allons-y.
Let's do it.
I have good news for you.
C'est l'heure de la Formule Express.
J'adore ça.
Ah bon?
On fait pas chier.
On essaye? Allez.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 43e Formule Express de retour à l'écran. On débute cette quatrième saison avec un retour sur l'un des plus gros succès du box-office français de l'année 1984. Classé second derrière la comédie de Michel Blanc, Marche à l'ombre, je vais vous parler d'une autre comédie française signée cette fois Claude Zidi, Les Ripoux avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte en tête d'affiche.
Dites donc, ça veut dire quoi, Ripoux?
Ah, tu connais pas le verlan?
Non.
Tu inverses les syllabes des mots. Ripoux pourri, Ripoux.
Ah, oui.
Sorti le 19 septembre 1984, une semaine après le second opus des aventures d'Indiana Jones, Les Ripoux attira près de 6 millions d'entrées dans les salles et permettra à Claude Zidi de recevoir enfin la reconnaissance de ses pairs lors de la cérémonie des Césars de l'année suivante. Mais ça, on en reparlera plus tard. Si vous êtes toujours passé à côté, Les Ripoux, ça raconte quoi ?
C'est l'histoire de deux flics particulièrement immondes.
C'est-à-dire que moi je suis plus ripou que lui, mais petit à petit je l'amène à devenir autant si ce n'est... Et comme souvent, l'élève dépasse le maître.
L'inspecteur René Boiron, interprété par Noiret, parvient en effet petit à petit à entraîner le jeune flic incarné par Lhermitte dans des magouilles toujours plus grosses et surtout toujours plus dangereuses.
On a les bœufs carottes au cul. L'IGS, inspection générale des services, la police des polices,
oh merde,
nous surveille.
Pourquoi on dit bœuf carotte?
Parce que quand il t'attrape, il te laisse mitonner à petit feu. Va falloir la jouer fine, François.
Retour en mai 1983. Claude Zidi s'offre une escapade au Festival de Cannes pour fêter le succès de Banzai, sorti quelques mois plus tôt et qui accumulait près de 3 800 000 entrées dans l'Hexagone. Un soir, il dîne à l'hôtel Carlton avec sa femme et son ami le réalisateur Claude Barrois, à qui l'on doit notamment le polar musclé, le bar du téléphone. Ce dernier vient accompagné par un certain Simon Michael, officier de la police judiciaire.
Et qui, au cours du repas, parle de ripoux. Je dis, ça veut dire quoi, ripoux? C'est quoi un ripoux? Bon, il me dit, ripoux, dans la police, on appelle un ripoux un mec, on le soupçonne de... Bon. Ah bon, pourquoi il y a des... on en connaît quelques-uns, on suppose que... Voilà, il me raconte deux, trois anecdotes. Et je lui dis, ça c'est mon prochain film. Et on va travailler tous les deux.
Ça tombe bien, Simon Michael, passionné de cinéma, rêve d'écrire des histoires pour le grand écran et a déjà rédigé un premier synopsis autour de ces flics corrompus.
Il avait cette idée de jeunes flics qui arrivent et qui se retrouvent en équipe avec un vieux flic, ripoux.
T'as vu ça? Le salaire d'un mois d'un commissaire en quelques minutes, c'est pas beau ça?
J'avais tapé, j'étais de permanence, et je me rappelle, j'avais tapé sur ma petite bécane de flic qui ressemblait aux bécanes de journalistes, les toutes petites bécanes plates. J'avais tapé quelques pages comme ça, en m'inspirant vraiment du monde de Chester Himes, quoi. Et le concept lui a beaucoup plu et on est parti là-dessus.
Les deux hommes partent s'isoler à Saint-Tropez pour écrire une première mouture du scénario. Une première mouture qui ne va pourtant satisfaire personne.
On était parti dans une direction un peu burlesque. Et puis, on n'était pas satisfait. Et on a tout repris en... Et ce qui nous a aidé pour reprendre le scénario, c'est d'imaginer le comédien qui ferait pour faire le personnage principal. On s'est dit, mais si c'était, imaginons, qui si on avait le choix, on prend qui? Et on a pensé à Noiret.
Philippe Noiret devient alors, sans le savoir encore, la source d'inspiration du duo qui va recadrer son scénario vers un ton moins potache et plus réaliste, à la grande satisfaction de Simon Michael, pas vraiment amateur du film à gag. Les deux hommes décident aussi de situer leur histoire dans Montmartre et Barbès, deux quartiers populaires du nord de Paris qu'ils connaissent bien et qu'ils vont encore longuement arpenter pour s'imprégner de la vie de leurs habitants.
Nourris de l'expérience, des faits, parce que s'il y a une constante de mon travail avec Jolivet et Zidi, c'est que je suis très attaché à une documentation enquêtée, c'est-à-dire à faire des immersions dans des sujets. Et là, j'avais j'avais quelques années de police derrière moi, donc j'avais beaucoup d'anecdotes, comme la menotte qu'on mettait, parce que c'est vrai qu'à Barbès, on ne pouvait pas arrêter un mec, lui mettre les pinces, on se faisait massacrer.
Mets-lui les pinces. Mais pas là, donne-moi ça. Si tu te balades dans le coin avec un mec qui a les brassés, tu vas te faire écharper par tes potes. Là. Bien serré comme ça, là, et puis l'autre, dans la chaussette. Voilà. Allez, marche devant.
Il va pas se tirer.
T'as déjà essayé de courir avec ce truc-là, quoi?
Il y a eu ces détails vrais. Et ça, ça a beaucoup nourri notre scénar.
On a trouvé assez vite, tout d'un coup, en gros, l'histoire. À partir du moment où... Parce que Noiret nous a amené... Parce que j'avais lu quand même qu'il était... qu'il avait des chevaux, qu'il adorait monter. Du coup, ça nous a amené l'idée de l'amateur de course. Et ça nous a obligés à travailler le personnage, son passé. Ouais.
Toujours avec Noiret en tête pour interpréter le rôle principal, les deux hommes sont rejoints par Didier Kaminka, un vieux complice de Zidi, pour dialoguer le film.
Donc moi, j'ai fait un petit travail d'investigation pour choper le langage des flics. Parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas. Donc je me suis infiltré un peu par l'intermédiaire d'un copain dans un milieu un peu interlope pour essayer d'attraper le langage des flics.
Ah bon, tu veux arrêter quelqu'un? Ah ben dis donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein? Tiens, la terrasse du café, là, trop longue d'un mètre, interdit, article R38.7. Le clébard, qui fait pas où on lui a dit de faire, au youf! Et les deux mecs qui fument du hache dans le passage, là, interdit. Le commerçant qui affiche pas ses prix, interdit aussi. Alors tu descends et tu arrêtes tout le monde. Allô? Voiture 26 à autorité. Envoyez une urgence, 6 quarts de police, le nouveau a arrêté 250 personnes.
Claude Zidi organise alors un dîner avec Philippe Noiret pour lui parler du scénario qui n'est encore à ce stade pas tout à fait terminé. Au grand soulagement du réalisateur qui avait presque tout misé sur la présence de Noiret au générique, l'acteur se montre intéressé par l'histoire et le personnage, mais ne s'engage pas immédiatement et répond à Zidi.
Je ne vous dirai oui qu'après avoir lu. Donc on a terminé le scénario. Je lui fais porter le scénario un soir et il m'appelle le lendemain matin en me disant « je le fais ».
Pour jouer le jeune flic qui donne la réplique à Philippe Noiret, Claude Zidi pense tout de suite à Thierry Lhermitte. Même s'ils ne viennent pas du même univers, le réalisateur jette son dévolu sur le comédien issu de la célèbre troupe du Splendide.
Il fallait quelqu'un qui ait l'air très très honnête. Et Lhermitte, vraiment, à côté comme ça, franc du collier, si vous voulez, les yeux bleus, parce qu'il vient d'Épinal. La ligne bleue des Vosges, vous voyez, bon, il y avait tout ça. Et puis c'est un très bon comédien, donc ça, c'était parfait, quoi.
Si Noiret, formé au TNP, le Théâtre National Populaire dirigé par Jean Villard, se montre un temps réticent de partager l'affiche avec un comédien issu du Café Théâtre, il se laisse tout de même convaincre par Zidi que son choix est le bon.
Et ton poulain?
Oh, c'est un tocard. À part le Grand Prix des Incorruptibles, je vois pas ce qu'il peut gagner, celui-là.
Oh, il n'y a même pas une semaine que tu l'as entre les mains.
Je le sens pas. Simone, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je le sens pas. J'ai pas confiance en lui.
Pour accompagner le duo, Claude Zidi fait appel à Grâce de Capitani, déjà présente dans Les Soudois en vacances, du même Zidi. On retrouve également Julien Guillaumard, autre habitué des plateaux du réalisateur, la reine de la nuit parisienne Régine, et un acteur au physique atypique, Michel Cremades, que le cinéaste a remarqué au cinéma dans une pub pour Darty.
Tu veux savoir pourquoi t'as mis une demi-seconde de plus que moi à écarter le pan de ta veste? Parce que moi, je l'ai lesté avec du plomb. Tu vois, mon petit pote, si tu veux éviter d'avoir du plomb là-dedans, t'en mets là.
Comme à son habitude, Philippe Noiret prépare son rôle avec beaucoup de sérieux et de précision, jusque dans le choix de son costume.
Il a imaginé son personnage et il a... un personnage, c'est souvent un costume. Il a fait trouver par son habilleuse une veste en cuir de l'EDF des années 50. Il a trouvé le pull camionneur aussi, avec la fermeture éclair qui était totalement démodée à l'époque. Et ainsi de suite, il s'est créé déjà, et puis la moustache, vous voyez, physiquement le personnage. Il m'a demandé une chose, il m'a dit, excuse-moi Claude, mais...
j'aimerais garder mes chaussures. Parce que là, je lui dis, écoute, je suis vraiment... je sais qu'elles viennent de chez une grande maison et qu'elles sont faites sur mesure, parce qu'il était très, très élégant. Ouais. Mais on ne verra pas que ce sont... Voilà, tu peux les garder.
Le tournage débute le 13 février 1984 dans le nord de Paris et le courant passe immédiatement entre Noiret et l'Ermite malgré les craintes du premier.
Vous savez, le contact entre deux comédiens se fait très vite. Il ne se fait pas. La première prise, ils se sentent. Voilà, et puis ça s'est très bien passé. Ils ont joué l'un en face de l'autre. Et puis ça se passe dans le regard, dans la réplique, dans le jeu. Et là, d'accord, ça va. Aucun problème avec lui, tout va bien.
Didier Caminca se souvient également de la manière de travailler des deux hommes.
Noiret était quelqu'un des premières prises. Et Thierry aussi. Donc c'est une chance. Et après, tendance à se mécaniser, comme chez beaucoup d'acteurs. Ce qui est compliqué, c'est si vous avez un acteur qui est bon dans les premières prises, qui joue avec un acteur qui est bon à partir de la 10e prise. Là, c'est compliqué. Mais quand il y a deux acteurs qui ont un peu l'instinct plus le talent, ça va très vite.
Simon Michael assiste lui aussi à ce premier jour de tournage pour voir son histoire prendre vie.
Claude m'a invité le premier jour. Et le premier jour, j'ai vu René Boiron, et pas Philippe Noiret, qui descendait l'escalier parce que Thierry Lhermitte venait lui dire « J'arrive pas à trouver une chambre d'hôtel ».
Eh ben voilà, deux buts, un interdit de séjour, trois chambres de libre.
J'arrive sur le tournage et je vois descendre Noiret, qui est quand même le mec le mieux sapé de France. C'est Berluti, c'est John Love et les tweeds et tout. Et avec son truc, et c'est le personnage, quoi. C'était éblouissant.
Tourner dans certains quartiers du nord de la capitale pouvait laisser craindre des tensions. Mais la présence de l'équipe de Zidi ne vient finalement pas perturber les habitudes des habitants du 18e arrondissement.
Bon, ça s'est vraiment très bien passé. C'était étonnant d'ailleurs, parce que il y avait ce qu'on appelle le marché aux voleurs. L'autre côté de la rue, du boulevard. Nous, on tournait sous le métro aérien. Alors, donc, on avait installé un petit étalage, quoi. Avec des lunettes, Bon, évidemment, on nous piquait les lunettes. Pouf. Bon, on allait les racheter de l'autre côté, quoi. Et le bonto, par exemple, le coup du bonto. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que personne ne se réalisait. Mais il y avait des furons à nous. Mais moi, je dis, laissez passer tout le monde, c'est pas grave.
Faites vos jeux, messieurs, faites vos jeux. Le 5,
c'est gagné.
Non, c'est moi qui ai joué le 5.
C'est moi qui ai joué le 5.
C'est mon ami qui a joué le 5, je suis témoin.
Il n'y avait pas de haut-parleur pour hurler, attention, on tourne, etc. Et quand Noiret et l'Ermite jouent au bonto, on a vu des types arriver qui les écartaient pour jouer. Alors qu'il y a la caméra et trois projecteurs. Extraordinaire.
Le tournage dure 2 mois tout rond pour s'achever le 13 avril 1984. Pas d'accroc pendant ces 2 mois qui se sont déroulés dans une très bonne ambiance. Nicole Sommier, qui a déjà monté les 4 précédents films de Zidi, se charge de mettre en forme le film. Elle a pourtant quelques craintes quand elle visionne les rushs. Zidi, qui n'a pas l'habitude d'intervenir pendant la phase de post-prod, a pourtant toute confiance en sa monteuse pour rendre le film le plus proche de ses attentes.
Je me souviens, ma monteuse me disait... Elle était peut-être habituée à d'autres films, mais des films plus comiques a priori, les rushs par exemple. Donc on voit les rushs, on voyait pas. Il n'y avait pas de... vous commencez... le comique naît justement de l'enchaînement des séquences. Mais il n'est pas dans... Alors que si je prends mon premier film, Les Bidas en folie, je me souviens, les rushs avaient lieu à Falaise. Et je lui ai dit, c'est une petite salle de cinéma, il y en avait une à l'époque. J'ai dit, bon, les gens peuvent rentrer s'ils veulent voir les rushs. Donc il y avait des gens de Falaise qui venaient voir les rushs. Ah, et avec les claps, tout, et muet en plus. Mais là, il riait parce qu'il y avait des gags visuels. Alors que les ripoux, il n'y a quasiment aucun gag visuel.
Les ripoux s'éloignant justement des précédents films burlesques de Zidi, le cinéaste décide de ne pas faire appel cette fois-ci à Vladimir Kosma pour composer la bande originale de son film. C'est finalement Francis Lay qui est chargé de mettre les ripoux en musique. Ce collaborateur de longue date de Claude Lelouch, qui a également travaillé pour Yves Boisset et Henri Verneuil, on lui doit surtout le célèbre thème de Love Story, va logiquement nous emmener vers des mélodies plus mélancoliques, des mélodies donnant encore plus de coffre au film. Les Ripoux sort le 19 septembre 1984, et surprise, les critiques sont plutôt conquis par le film de Zidi. Une première dans la carrière du cinéaste, se souvient Simon Michael.
Premier papier dans Libé, mais dit tyrambique, quoi. Alors que Libé a flingué, même pas flingué, a marché sur Zidi, il a écrasé la gueule pendant des années, quoi. Et Claude était très... très sceptique, parce que, bon, vieil âge, quoi, si t'as un bon papier dans les cahiers, dans Télérama, c'est que le film va se planter, quoi. C'est... On connaît la musique, et surtout pour Zidi. Mais c'est vrai que Claude s'était fait tellement cracher dessus qu'il avait une distance par rapport à ça.
Et justement, le film démarre mollement dans les salles. Didier Caminca est avec Claude Zidi quand les chiffres du premier jour tombent.
Le premier jour des Ripoux, on dînait ensemble, Noiret, Claude, Pesé, donc les distributeurs, et le chiffre tombe à minuit... 10 000 entrées, ou même peut-être un peu moins de 10 000 entrées, alors qu'on faisait 40 000 avec Banzai le premier jour Paris, 30 et quelques mille avec les Soudoués.
Mais le distributeur du film, Jacques Pesé, président de AMLF, se veut résolument optimiste.
Il me dit, Claude, ouais, les chiffres sont moyens, parce qu'il y avait 4 films qui étaient sortis ce jour-là, qui avaient fait la même chose, à peu près dans les 11-12 000. Mais on en reparle dans quelques semaines. Je lui dis, mais pourquoi vous me dites ça d'après, pourquoi vous avez, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il me dit, écoutez, j'ai téléphoné à des directeurs de salles. Puis à l'époque, ce n'était pas encore les multisalles, si vous voulez. C'est-à-dire, le directeur était en contact avec les clients. Les clients sortaient du film et disaient au directeur de la salle, formidable, j'irai le revoir. Vous voyez, il y avait très vite un écho. Comme ça, il me dit, on en reparle. Effectivement, on en a reparlé. Quelques semaines plus tard, on en a reparlé. Oui.
En effet, bénéficiant d'un bouche-à-oreille plus que favorable, les Ripoux voient la courbe de ses entrées en constante progression, semaine après semaine. Un succès public et critique qui lui vaut quelques mois après sa sortie de recevoir 5 nominations pour les Césars 1985. Une surprise, tant le cinéma de Claude Zidi semble tellement peu César compatible. D'autant plus que cette année-là, les Ripoux affrontent notamment Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier, Le Carmen de Francesco Rosi, ou Les nuits de la pleine lune de Éric Rohmer pour la récompense suprême du meilleur film. Et pourtant, sur les 5 catégories dans lesquelles il concourt, les Ripoux en remportent 3, dont 2 des plus prestigieuses, celle du meilleur réalisateur pour Claude Zidi et celle du meilleur film justement. La troisième récompense revenant à Nicole Sommier pour le meilleur montage.
Et le gagnant est les Ripoux.
Les Césars, je ne garde pas un souvenir extraordinaire. D'abord parce que je suis très mal à l'aise devant 2000 personnes sur une scène. Ça, c'est vraiment... c'est pas fait pour moi, quoi. Et voilà. C'est bon, on sait pas quoi dire, on dit des conneries. Après, on se dit, mais j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Je sais pas, j'ai eu quand même l'impression de presque une erreur de casting, là aussi, oui. C'est pas... Ça vous embarque dans une direction qui est pas complètement... la vôtre, enfin on est dans un club qui n'est pas le vôtre non plus. Vous voyez, c'est pas... oui. Et en même temps, c'est gratifiant dans la mesure où il y a des gens quand même qui ont beaucoup aimé le film.
Cette consécration des Ripoux au César va permettre au film de connaître une seconde vie dans les salles, lui permettant de frôler au final la barre des 6 millions d'entrées. Les Ripoux restent à ce jour le troisième plus gros succès de la carrière de Claude Zidi, derrière Astérix et Obélix contre César et les Bidas en folie. Les Ripoux connaîtra deux suites. La première sortira presque 6 ans plus tard, en 1990. Une suite qui a vu le jour dans des circonstances un peu particulières. Claude Zidi et Simon Michael pensaient en effet en faire plutôt une série pour la télévision. Les deux hommes avaient même écrit les 6 premiers épisodes. Mais devant les multiples refus essuyés par le duo face aux producteurs de séries, pas convaincus du bien fondé de cette idée, Zidi et Michael décident finalement d'adapter leur premier épisode pour le cinéma. Pathé faisant de son côté le forcing auprès de Zidi pour sortir une suite sur le grand écran.
Bon bah alors allez-y, commandez.
Non merci, j'ai déjà déjeuné.
T'as trouvé une cantine moins chère qu'ici?
J'en ai marre de manger à l'œil.
Ah. Oh. Moi aussi, à ton âge, j'ai eu une crise mystique. Un passage à vide.
René, je suis encore jeune, la magouille, je peux plus. Je veux faire honnêtement un métier honnête.
Tu veux quitter la police?
Non. Et si j'ai des enfants, je veux qu'ils puissent être fiers de leur père.
C'est marrant, j'ai plus faim.
Ripoux contre Ripoux sort le 7 février 1990, et s'il n'atteint pas les scores du premier opus, il frôle tout de même la barre des 3 millions d'entrées. Il faudra attendre 13 ans supplémentaires pour voir le troisième et dernier épisode de ce qui devient la saga Ripoux. Un ultime épisode, il faut l'avouer, pas bien fameux, dans lequel Noiret et l'ermite sont rejoints par Laurent Deutsch. Le public ne s'y trompe pas. Ripoux 3 ne remplit pas les salles et finit sa carrière un peu plus de 800 000 entrées.
Est-ce qu'un jour t'arrêteras de me foutre dans la merde ?
On s'en est toujours sorti, mon François.
Je vais te tuer.
Police, tu bouges plus ! Mais t'es con, arrête !
Ah bah oui, une bastos.
Dans le gras,
comme au bon vieux temps.
Tu sais qu'à la dixième, t'as droit à un très beau nounours en peluche, hein ?
C'est parti. Ah merde, elle est où la marche arrière ?
La prochaine fois, tire une automatique.
Je suis pas flic depuis 24 heures que meuf la voyou.
Moi, je pourrais jamais vivre avec un voyou.
Puis tu me rappelles un bourrin.
Java des faubourgs, un tocard, comme toi.
T'es trop con, toi !
Flic et con, ça s'appelle un pléonasme.
Ripoux un jour.
On se bouche les oreilles et on ouvre la bouche.
Ripoux toujours, hein.
J'aime l'odeur de la poudre l'après-midi au fond des banques.
En 2010 revient l'idée de faire des Ripoux une série pour la télévision. TF1 se montre en effet intéressé par l'idée. Claude Zidi et son fils Julien écrivent un pilote qui sera tourné par leurs soins avec un nouveau casting. Diffusé le 17 février 2011, ce premier épisode réunit près de 6 millions de téléspectateurs. Mais malgré ce succès, TF1 ne commandera pas de nouvel épisode. Ce coup d'arrêt marquera justement la fin de carrière de Claude Zidi à l'âge de 77 ans. Je reviens sur les Ripoux qui marquent une vraie rupture dans la carrière de Zidi. Le succès du film confirme en effet au cinéaste qu'il peut enfin s'affranchir du film à gag pour remplir les salles. Car bien plus que la reconnaissance de ses pairs, c'est divertir un large public qui motive le cinéaste.
J'aimerais aussi remercier finalement ceux que l'on remercie assez peu souvent. Mais je crois qu'ils sont assez étonnants en France, sont les spectateurs. C'est le public français. Nous avons en France sans doute, si on devait décerner un César international du meilleur public, je crois que nous avons le meilleur public au monde. C'est le public français qui aurait le César du meilleur public. Nous avons un public très diversifié, très, très intéressé par le cinéma, encore un peu nombreux, pour combien de temps évidemment, on ne sait pas, passionné. Je crois que le public français, beaucoup de pays, en Europe en particulier, aimeraient avoir l'équivalent du public français. Alors, je remercie ce public qui m'encourage depuis pas mal de temps, depuis 71, date de mon premier film, qui m'a suivi et qui m'a encouragé. Ça a souvent été le seul, mais c'est pas mal. Et c'est à ce public français que je dédie le César du meilleur film.
Claude Zidi réalisera quelques films assez ambitieux par la suite, notamment deux avec Gérard Depardieu et Marouchka Detmers, et le polar Profil Bas avec Patrick Bruel. Mais ils ne réitéreront malheureusement pas le succès des Ripoux. Le cinéaste n'étant pas parvenu en effet à retrouver ce parfait équilibre que l'on retrouve dans les Ripoux entre comédie populaire et comédie de mœurs. Le cocktail gagnant qu'a fédéré tous les publics. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré aux Ripoux. On se retrouve très vite pour de nouvelles remises en lumière qui vous seront également proposées par de nouvelles voix. En effet, pour cette quatrième saison, la team Retour à l'écran s'élargit et a le plaisir d'accueillir Adrien, Thibaut, Eric et Arthur qui viendront vous raconter de nouvelles histoires de films et de cinéastes plus ou moins oubliés. En attendant, tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles à l'écoute sur notre site retouralecran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. C'était Max pour les Ripoux, à très bientôt.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma.
Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat ?
C'était pas ma guerre !
Back in full force.
Quelle est votre devise ?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.